revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Infirmier en état d'urgence. C'est le titre du portrait consacré au jeune homme dans M, le magazine du Monde. Il s'appelle Hugo Bon. Il est né à Saint-Malo, il a 30 ans et préside le collectif Inter-Urgence qui représente aujourd'hui près de 250 services en grève, soit la moitié des urgences publiques du pays. À ce titre, avec son allure d'étudiant rebelle, Hugo Bon est devenu l'un des visages de ce mouvement de contestation entamé il y a 6 mois dans le journal du dimanche. Il raconte son quotidien à l'hôpital Lariboisière, près de la gare du Nord à Paris, où il est infirmier depuis 5 ans dans l'équipe de nuit. Les urgences de Lariboisière, c'est l'un des plus gros services de France et sans doute aussi l'un des plus exposés à la misère et à la violence. Des patients impatients qui insultent et parfois même qui frappent le personnel hospitalier, des désespérés, précarité extrême, des camés, des alcoolisés, des sans domicile fixe, et puis d'autres qui viennent pour de simples bobos. Des gens, raconte-t-il, à qui on a envie de dire prenez du bouillon, prenez du Doliprane, ou encore, si vous avez mal ici depuis des mois, pourquoi décidez-vous de venir faire une radio à 4h du matin ? Dans M, il confie que ses nuits de travail ont déteint sur ses jours. Il a développé, dit-il, une espèce de cynisme sur l'humanité qui s'enfonce. D'ailleurs, il a prévu de mettre prochainement les voiles, partir au Canada pour travailler dans une communauté inuite et pour ne plus avoir, comme à Lariboisière, le sentiment, dit-il, de pisser dans un violon.
Et c'est dans son service qu'une femme est morte l'an dernier.
En décembre 2018, après avoir attendu 12 heures sur un brancard. Suite à cela, son équipe a obtenu 2 postes supplémentaires, mais le JDD interroge l'infirmier. Des patients sont-ils en danger aux urgences ? Sa réponse, oui, il arrive que des gens meurent parce que les soignants sont débordés. C'est un problème de santé publique, on a honte. Parfois les familles ne sont pas au courant, les équipes se taisent par culpabilité. Dès lors, quelle réponse peut donc apporter la ministre d'après l'hebdomadaire ? C'est un vrai plan d'urgence qu'Agnès Buzyn devrait annoncer demain pour tenter de calmer la colère dans les hôpitaux. 3 mesures seraient notamment en préparation. Ouverture de lits, suppression du paiement à l'acte, création d'un numéro d'urgence unique. Notre plus grande victoire, reconnaît Hugo Bon, c'est d'avoir obtenu que le gouvernement cesse de dire que tout va bien aux urgences. Reste à voir maintenant si ce plan sera un succès ou un fiasco.
Agnès Buzyn, la ministre de la Solidarité et de la Santé, qui sera ce matin l'invitée de Questions politiques d'Ali Badou entre midi et 13h avec Karine Bécard. Frédéric, vous parliez de fiasco, et bien dans Le Monde, c'est justement d'un fiasco qu'il est question.
Le fiasco de la taxe sur les yachts. Vous vous souvenez sans doute de ce dispositif voté il y a 18 mois. Dans le sillage de la suppression de l'ISF, une mesure censée contrebalancer l'image de président des riches, dont Emmanuel Macron a bien du mal à se défaire. À l'époque, on promettait des recettes fiscales de 10 millions d'euros, lesquelles, avait même expliqué Richard Ferrand, pourraient être affectées à la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Or, à ce jour, pour 2019, la taxe sur les yachts a rapporté moins de 300 000 euros. Bercy en espère 500 000 d'ici la fin de l'année, mais tout de même, entre 500 000 et 10 millions, il y a une sacrée différence. Ne se serait-on pas planté dans les chiffres au départ ? Un député de la majorité mène l'enquête et Le Monde dénonce un naufrage fiscal.
Et pour les femmes battues, les mesures seront-elles à la hauteur ?
Cette semaine s'est ouvert le Grenelle des violences conjugales. Des marches d'hommage se sont déroulées hier. 300 personnes, notamment dans les rues de Perpignan. Grande photo à la une de l'Indépendant dans les Pyrénées-Orientales. Déjà 3 femmes tuées par leur compagnon ou leur ex. Et sur l'ensemble des victimes de cette année, près d'un quart ont plus de 60 ans. C'est à lire dans l'Express. Meurtres conjugaux, le tabou des seniors. Dans cette catégorie d'âge, il est souvent question de maladie et il est fréquent que l'homme se suicide après son crime. Certains y voient une forme d'écho romantique. Par négligence, ils ont l'image du couple uni dans la mort. Pourtant, il s'agit bien de crime. Un autre tabou, dans Têtu, s'aimer en cité, les homos parlent. Ils s'appellent Michael, Ali, Pierre ou Karim et disent de quelle manière ils vivent leur homosexualité dans ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires. Dans ces quartiers, y a-t-il plus d'homophobie qu'ailleurs ? Non, sans doute pas davantage que dans certains villages de campagne, mais tous les garçons qui témoignent affirment que, pour éviter de se faire agresser, insulter, bousculer, voire pire, ils s'efforcent de ne pas avoir l'air homosexuel. Mais l'amour est possible, même s'il se cache parfois. Certains le disent, certains le vivent.
Je suis un homme haut, comme ils disent. On trouve aussi, Frédéric, d'autres histoires dans les journaux ce matin.
Une histoire,
d'autres belles histoires.
Jolie. Une histoire de portefeuille, oui. Dans l'Est République, un petit portefeuille égaré dans une bibliothèque de Nancy par un étudiant en médecine en 1933. Il s'appelait Jean Poirot et la bibliothèque vient de restituer l'objet à sa fille, très très émue sur les photos, le portefeuille du docteur Poirot, retrouvé donc au bout de 86 ans. Une histoire de cactus dans le phare de Ray, l'hebdo de Ray la Blanche, le surnom de l'île. Un cactus planté dans le jardin de Marius Faquet, un nonagénaire vivant à la flotte avec ses deux caniches. On le lui a offert il y a 40 ans, ce cactus, sa singularité, il fleurit tous les 40 ans. Et c'est en ce moment même, Marius est donc aux anges. Ses voisins en profitent aussi car le cactus culmine à plus de 10 mètres de haut, plus grand encore que les roses trémières de l'île. Il est des joies qui exigent de la patience. Enfin, une autre belle histoire, histoire d'amour, celle-ci à lire dans le Figaro, qui évoque le récit Fille de Métèque, récit dans lequel la chanteuse Pia Moustaki raconte son parcours et la vie de ses parents. Son père, Georges Moustaki, mais également sa mère, poétesse bretonne, qui s'est montrée très conciliante lorsqu'elle a appris la liaison de son mari avec Édith Piaf. C'est à Moustaki qu'on doit les paroles de Milord.
Milord.
Et voilà ce que disait sa femme. Quand mon mari me trompe avec Piaf, je ne me sens pas cocu. La phrase est magnifique.
Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable.
Quand mon mari me trompe avec Piaf, je ne me sens pas cocu. Il me semble que la femme de Marcel Cerdan avait dit à peu près la même chose à propos de Piaf sur les amours. Piaf Cerdan. Merci Frédéric Pommier. Il est 8h48 sur France Inter. La musique classique à présent après Piaf.